franceinter.fr.
Vous voyez, maman?
Non, je vois rien.
Là-bas, regardez, le grand méchant renard.
Gre, gre, gre. Ouh, c'est moi le plus grand et le plus méchant des renards.
Mensonge! C'est moi le... Toi, c'est moi, le grand méchant renard.
Maman!
Les filles, vous m'entendez?
Yes, sir. We hear you.
Please, I need help.
Non, je déconne.
Allez.
Una are to vous.
Hey, boys! Come save me!
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Now, go wait.
Allez, action!
Help me!
Action, pourquoi faire?
C'est le deuxième festival de cinéma en France, le Cannes de l'animation, dit-on. Ah, si Cannes pouvait être aussi animé dans les salles, aussi jeune et aussi ludique, ce serait vraiment bien. Mais c'est le privilège d'Annecy, nous y sommes, au bord du lac pour cette 41e édition du Festival international du film d'animation. Salut Laurent et bonjour tout le monde.
Bonjour Annecy, bonjour, bienvenue à toutes et à tous.
Yes. Plus de 9000 accrédités, 230 films sélectionnés, 85 pays représentés, des salles combles, des avions en papier lancés de toutes parts sur la scène, des files d'attente joyeuses, des étudiants du monde entier, pas de passe-droit. Ici, tout le monde fait la queue, presse comprise, j'ai testé. Bref, des passionnés sous le soleil. Bonjour Marcel Jean. Délégué artistique d'Annecy et reconduit jusqu'en 2020, bravo pour cette élection. Vous nous raconterez ce qui fait la spécificité d'Annecy cette année, entre la Chine, l'érotisme ou la réalité virtuelle. Autre thème incontournable ici, le lien entre BD et cinéma d'animation. Voici deux spécimens. Bonjour Arthur de Pince.
Bonjour.
Vous, auteur de BD donc et réalisateur, vous avez ouvert les hostilités avec Zombielennium. Et bienvenue à vous Benjamin Renner.
Bonjour.
Vous êtes vous hors compétition avec ce bijou, le grand méchant renard et autres contes. Enfin, pour saluer cette animation française, un livre, La French Touch, aux éditions de La Martinière. Vous en êtes l'auteur, bonjour Laurent Vallière.
Bonjour.
125 années d'une histoire passionnante dans ce très beau livre, superbement illustré. C'est parti.
Annecy, Annecy, c'est le plus beau des festivals. Annecy.
Extrait du petit film qui précède chaque présentation, conclu par cette petite voix, ça va être tout noir, et la salle d'ajouter « ta gueule ». C'est une des traditions d'Annecy, ce côté bon enfant d'ailleurs. C'est fou comme ce festival est jeune, Marcel Jean, j'ai croisé les étudiants du monde entier ici, et pour beaucoup, carnet de croquis à la main et véritable passionné. C'est un festival super jeune.
Absolument. Le quart des festivaliers sont des étudiants. Alors, si on ajoute à ça, bon, les jeunes professionnels, les autres festivaliers qui n'ont pas encore atteint mon âge, ben, ça nous donne effectivement un festival très jeune, très vivant, parfois un peu potache, très agité et dynamique en fin de soirée d'ailleurs.
D'ailleurs, Arthur de Pince, on peut dire que vous êtes né ici.
Un peu, oui. J'ai rencontré mon co-réalisateur ici aussi. En fait, tout se passe à Annecy, finalement. Le reste de l'année, on s'emmerde, on n'a rien à faire. On en profite, quoi.
Bon, on fait des films, quoi.
Benjamin voilà. Renner, vous êtes né aussi ici ou pas?
Né, non. Mais, j'y viens régulièrement. Oui.
Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée, Marcel Jean?
Tout. Non, depuis mon arrivée, ce qui a changé, je dirais, c'est tout simplement l'évolution du festival et l'évolution de l'animation même qui s'est faite naturellement. C'est-à-dire qu'on a vu, par exemple, de plus en plus de films se situer à la frontière de l'animation, être entre la prise de vue réelle, l'animation, les effets spéciaux. On a vu un nouvel âge de la rotoscopie, je dirais, la motion capture, la captation de mouvement. On a vu aussi arriver maintenant la réalité virtuelle. Donc, nous devons être à l'affût de toutes ces évolutions.
Vous avez vu 2850 films et retenu à peu près 250. Qu'est-ce qu'ils avaient de mieux que les autres, ces 250-là?
Il y en a même de très bien, de très bons qu'on n'a pas retenu. Et justement, je pense qu'il faut être très sélectif à Annecy. Ce qu'on veut, c'est présenter une sorte de polaroïde de la production. Alors, on sélectionne, oui, les meilleurs films, ceux qui ressortent, mais aussi ceux qui représentent les tendances. Alors, il est important, je crois, d'être à l'affût, de voir où ce qui se dessine, ce que les artistes nous proposent, et là, d'aller chercher ceux qui représentent, je dirais, la tête de chaque tendance.
Court-métrage, séance événement, film de fin d'études, de télé, projection en plein air, et la Chine, pays à l'honneur, alors quoi de neuf sous le soleil chinois?
Ce qui nous a attirés dans la Chine, c'était d'abord l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes très libres qui évoluaient dans le spectre de l'art contemporain. Mais
très libres, même si un film a été interdit.
Même si un film a été interdit, oui, mais ça on peut y revenir, c'est que dans le spectre de l'art contemporain, il y a quantité de cinéastes chinois qui utilisent l'animation, ou d'artistes chinois qui utilisent l'animation. Ces artistes-là passent, je dirais, à côté des mécanismes de censure. Ce qui n'est pas le cas dans le cas du long métrage. Et on a vu des problèmes de visa pour le film Have a Nice Day, qui avait d'abord été sélectionné et qu'on a dû retirer à la demande du producteur.
L'histoire est incroyable. C'est un chauffeur de taxi qui vole de l'argent mafieux pour réparer une erreur d'un chirurgien esthétique sur sa femme.
Oui, c'est un côté polar, un peu glauque, polar existentiel. On voit des films de ce type-là. Bon, ça pourrait rappeler les frères Coen ou Tarantino pourraient raconter une histoire semblable. C'est ce qui nous plaisait de voir un film nous arriver de Chine avec ce ton. Finalement, mais ce n'est que partie remise.
Il y a l'animation érotique, donc des goûts et des couleurs sexuellement explicites ou pas?
Il y a du sexuellement explicite, mais la sélection, elle a été faite surtout pour exprimer la manière dont les cinéastes se colletaient avec le désir et avec la notion de regard. Alors, ce qui est explicite a évolué avec le temps. Si on se ramène aux films des années 40 ou des années 50, on n'a pas du tout la même audace que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Alors, cette sélection, elle nous a été suggérée, je dirais, par les cinéastes eux-mêmes. Parce que de plus en plus, lorsqu'on fait la sélection officielle, on remarque que les cinéastes abordent des thèmes érotiques, et en particulier les femmes, oui. Et en particulier même les jeunes femmes.
Est-ce que Arthur Depince ou Benjamin Reiner, c'est une animation que vous aimez, l'animation érotique?
C'est vrai que j'en ai pas vu beaucoup, en fait, d'animation érotique, à vrai dire. De BD érotique, oui, mais j'ai pas vu la séance qu'avait Annecy, et à vrai dire, je crois même que j'ai jamais vu d'animation érotique du tout.
Ouais, ça c'est.
Mais en fait, c'est certainement très difficile à produire, en fait, parce que ça coûte cher, l'animation, donc comme c'est un public restreint. Mais j'aimerais beaucoup en voir.
Benjamin Reiner.
Moi, j'en ai vu un. C'était un film qui avait gagné le Cristal, d'ailleurs, je crois. Je ne me rappelle plus d'un film russe, je crois. Mais c'était traité vraiment plus sur la comédie. Enfin, c'était entre moitié sexuel et comique. Et du coup, je ne sais pas si on peut parler d'érotisme quand il y a de la comédie. Enfin, quoi que ce soit, ça peut être
drôle
aussi.
Pourquoi pas, ça peut être lié, ensemble. C'est qui les plus forts, Marcel Jean, en animation en ce moment?
Les plus forts en ce moment, je dirais que les Japonais, si on parle du long métrage, c'est une très grande année pour l'animation japonaise. Les Français sont pas mal non plus. Ils sont pas baraqués, mais quand même, ils sont habiles, ils sont agiles. Alors, l'animation française à laquelle on rendait hommage l'an dernier s'est beaucoup distinguée ces dernières années. Et d'année en année, c'est la France qui obtient le plus de sélections à Annecy parce que il y a des structures de production qui sont solides, parce qu'il y a de grandes écoles. Alors, quand on compile l'ensemble des sections, les Français sont partout.
Et il faut dire qu'on nous pique nos animateurs, que Hollywood vient faire son marché régulièrement en France. Et ça, c'est une vraie victoire. Ouais.
Ici et ailleurs, je vous dirais. Ouais. Parce que quand on va dans les studios hollywoodiens, on rencontre des gens de partout. Des Indiens, des Coréens, des Brésiliens et beaucoup de Français. Ouais.
Est-ce qu'il y a des pays absents de la carte de l'animation?
C'est encore difficile en Afrique. Bon, si on fait exception de l'Afrique du Sud, il y a encore peu de production, mais on a justement créé une section cette année qui s'appelle Perspective, dans laquelle nous montrons des courts-métrages qui proviennent souvent de pays qui n'ont pas d'infrastructure de production encore. Donc, des cinéastes qui travaillent de manière plus isolée et souvent avec moins de moyens.
Par contre, ça se décline pas beaucoup au féminin, hein, pour l'instant, des réalisatrices en animation. Alors là, on les cherche, hein.
Écoutez, on a atteint cette année, pour la première fois, la parité sur l'ensemble des sélections de courts-métrages. Depuis quelques années, je remarquais que nous avions davantage de courts-métrages de femmes dans la sélection films de fin d'études. Là, ça s'est transmis jusque dans les courts-métrages professionnels. Et de plus en plus, quand même, même s'il y a encore un gros travail à faire, on en voit en long-métrage. Et cette année, il y avait pas moins de 5 longs-métrages en sélection officielle qui avait une réalisatrice ou une co-réalisatrice.
Et enfin, on va vous libérer après parce que vous devez partir. Cannes a eu un problème Netflix et Annecy a aussi un problème Netflix ou pas pour un seul film.
Moi, je ne dirais pas que c'est un problème Netflix dans notre cas. C'est que nous avons voulu que le film Blame, qui est une magnifique production de science-fiction japonaise, soit accessible au public sur un grand écran. Alors, le film ne figure pas, cependant, en compétition, puisque dans la règle, il est bien indiqué qu'un film ne doit pas être déjà accessible au public français. Alors, puisqu'on peut le voir sur Netflix France, nous avons plutôt décidé de projeter le film en séance spéciale, ce qui fait que ce soir, cette œuvre pourra être vue sur un très grand écran.
Et enfin, un petit scoop, c'est qui le pays à l'honneur l'an prochain?
Ah, ça, vous pouvez me tordre le bras, me torturer. Ce scoop, c'est demain que je le révélerai.
Seulement?
Eh oui.
Merci beaucoup. Vous avez ouvert Annecy cette année, Arthur Depince, avec Zombilennium, cette comédie horrifique dont vous signez la réalisation avec Alexis Ducor. C'est l'adaptation de votre BD dans un parc d'attractions, le Zombilennium, zombies, vampires, loups-garous, de vrais monstres dont l'âme appartient au diable, mais des monstres fatigués de devoir divertir les humains jusqu'à l'arrivée d'Hector, contrôleur des normes de sécurité et déterminé à fermer l'établissement. On écoute un extrait.
Alors c'est toi le patron maintenant ? Ah. Tu t'es servi de moi, j'aurais dû m'en douter.
Chut, s'il te plaît, merci. Oui, je vous la passe. C'est ton papa. Oh, pardon, haut-parleur.
Alors, ma fille, ton stage se passe bien?
Qu'est-ce que tu veux?
Je veux que tu emmènes les zombies en enfer.
En enfer? Jamais! Tous les monstres ont leur place dans ce parc.
Gretchen, nous venons de signer un pacte avec les humains. Et désormais, ce parc est le leur. Ils veulent des vampires qui transpirent des paillettes pour émouvoir les gamines.
Vous y allez un peu fort, là.
C'est leur choix. C'est la loi du marché. Si les zombies ne s'en vont pas, le parc ferme.
Et bien qu'il ferme! Et les vampires descendront avec le reste.
Ne m'oblige pas à le faire moi-même.
Si tu enfermes les zombies, je détruis tout!
Vraiment? Tu me déçois. Je t'ai repris tes pouvoirs ainsi que les espoirs que j'avais placés en toi. Et puisque tu aimes tant les zombies, tu finiras ton stage en prenant leur place au barba papa.
Allez, allez, va-t'en, j'ai plus besoin de toi.
Ça marche super bien l'animation en radio, hein. Alors, il y a un gros défi à la base de ce film Arthur Depince, c'est le thème des monstres qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans le cinéma d'animation. Et ça, ça doit être jouissif à imaginer.
Les monstres,
imaginer, ouais.
les zombies. Ouais. Alors, il y en a, mais c'est vrai que c'est là les monstres qu'on voit dans Zombilennium, c'est plus, on va dire, des monstres du cinéma d'horreur classique, ouais. De la Hammer. D'ailleurs, ils ont vraiment des têtes assez, finalement, assez clichés, que ce soit la momie, le vampire, etc. Ou le squelette. De toute façon, les squelettes, c'est généralement assez cliché parce qu'ils sont tous pareils. Mais c'est vrai que c'est une galerie de monstres. Classique, on va dire, en apparence, mais alors par contre dans leur fonction, la particularité c'est qu'ils travaillent et qu'ils travaillent dans une entreprise et que cette entreprise, elle est exactement comme celle dans laquelle nous on travaille, c'est-à-dire qu'il y a un patron, un délégué syndical, un DRH, un grand patron évidemment qui est le diable, mais donc finalement c'est des personnages fantastiques mais qui nous ressemblent beaucoup.
Et on sent le vécu dans cette expérience de patron, notamment quand on travaille pour la publicité ou pour la télévision, où des cadres supérieurs vous imposent des sujets ?
Alors oui, évidemment, avec Alexis Ducor, mon co-réalisateur, on a, quand on a écrit l'histoire, on a évidemment mis plein de petites références à nos, on va dire, notre parcours à nous, notre travail. Il y a notamment des personnages dans Zombielennium qui sont des actionnaires. Alors je sais que ça peut paraître un peu rébarbatif, mais le parc quand même a besoin de tourner, donc ils vont chercher voilà des partenaires. Et évidemment, ces actionnaires veulent à tout prix changer le parc, ils veulent le rendre, faire un parc qui fait moins peur. Voilà, ils veulent essayer de l'édulcorer un petit peu. Ils veulent qu'il y ait que des vampires. Comme il dit dans l'extrait, qui transpire des paillettes, un peu comme le vampire de Twilight. Donc voilà, ils veulent essayer d'obtenir ça, mais le problème, c'est que nos monstres dans Zombielennium étant des vrais monstres, ça signifie que les zombies, ou tous les monstres un peu moches, bah, vont se retrouver directement en enfer, ils vont se retrouver licenciés.
Vous n'avez pas répondu, vous avez été édulcoré, vous, déjà ?
Moi, j'ai été édulcoré, vachement. Tout le temps.
Télé.
Je suis un fruit de l'éducation.
Non, mais télévision. Non.
Disons que oui, bah, mais on va dire les 10 premières années où j'ai travaillé, donc c'était dans l'illustration, dans la publicité, j'ai été souvent confronté à ça. Là, il y a un des personnages dans Zombielennium, justement, qui emploie l'expression, il dit il faudrait faire une peur, mais sans frayeur. Et c'est tout à fait le genre de discours qu'on peut entendre dans la publicité. Alexis Ducor, lui, c'était plutôt dans les séries télé, et c'était sans arrêt, voilà, des demandes complètement absurdes pour, je dirais, raboter, enlever les petites aspérités, et pour finalement avoir un produit fade et sans intérêt. Donc évidemment, on fait évidemment une petite critique de ça dans Zombielennium.
Et sur l'idée que les monstres sont plus humains que les humains, on pense en référence cinéma à Freaks de Todd Browning.
Tout à fait. Voilà. Bah, je pense que ou à Elephant Man, enfin oui, tous les grands classiques du cinéma. Et c'est vrai que ce sont des films vraiment très émouvants. Et bah, Zombielennium marche selon le même principe.
Le générique de fin, on se le disait avec Laurent, est absolument impressionnant. Oui. Vous êtes combien à travailler sur le film?
C'est une armée.
Ah bah c'est on est entre 150 et 200. Alors j'ai pas le chiffre exact parce que c'est assez dur à quantifier, mais on est pas mal.
Et pendant combien de mois, d'années?
Alors pendant 5 ans. Pendant 5 ans, c'est-à-dire que bon, les 150-200 personnes n'ont pas bossé tout en même temps. C'est on vrai. Va dire qu'il y avait le pic a été peut-être 80 personnes qui travaillaient en même temps. Par contre, on était répartis sur plusieurs sites.
Ça veut dire beaucoup d'argent, beaucoup de budget.
Oui, alors notre budget, c'est un budget à peu près... Je saurais pas trop le situer, c'est un budget de 13 millions.
Un film français normal, je veux dire avec des vrais acteurs, un budget moyen, c'est 3 millions.
Voilà, tout à fait. Ah oui, l'animation, ça coûte très très cher.
Très cher, voilà.
Surtout qu'en plus, nous, on emploie une technique qui est la 3D, donc qui coûte encore plus cher. Et puis, il y a beaucoup de décors, beaucoup de personnages, parce qu'il y a des foules, parce que c'est dans un parc d'attractions. Donc, évidemment, il a fallu parfois même se serrer la ceinture, parce que même ce budget qui paraît énorme, finalement, nous a un peu limité dans certaines scènes, certains plans. On va dire que c'est un budget qui est vraiment assez confortable pour un film français, mais par contre on est quand même très loin des films américains où là on peut le multiplier par 20.
J'imagine que c'est beaucoup plus confortable d'avoir conçu comme Benjamin Renner la BD de base, mais est-ce qu'il faut faire des concessions quand on passe au film ?
Alors en fait non, vraiment moi j'ai pas eu l'impression d'en faire pour la BD et pour le film en fait j'avais un peu peur justement comme l'exemple que je citais tout à l'heure, comme il y a plus de budget, plus de gens qui mettent de l'argent, j'avais peur que tous ces gens tout d'un coup se mettent à avoir des exigences, demander par exemple d'enlever les tatouages sur le bras de la sorcière ou alors d'avoir des scènes qui font pas trop peur, etc., pour que ce soit le plus mainstream, le plus universel possible.
Comme les investisseurs du film.
Et comme?
Comme les investisseurs de ton
film. Exactement, voilà. Et ben, en fait, non. Finalement, on a eu la chance d'avoir un producteur qui croyait beaucoup au film depuis le début et qui aimait beaucoup la bande dessinée et qui a vraiment voulu maintenir le même état d'esprit dans le film. Donc finalement, on a pu vraiment faire le film qu'on voulait.
Mais en fait, vous avez ajouté le père et sa fille dans le film.
Oui, tout à fait.
C'est quand même un élément capital du film.
Oui, en fait, ce qu'on a changé par rapport à la BD, c'est qu'on a changé le héros, en fait. Bon, l'histoire n'est pas
c'est
la
énorme.
Même. On a gardé... Oui, c'est pas rien. C'est pas anodin.
On a enlevé Astérix.
En fait, on a enlevé le... Enfin, on a gardé l'univers, donc le parc. On a gardé pratiquement tous les personnages principaux ou secondaires. Sauf le héros, en fait pour une raison de scénario, c'est juste parce que le héros marche pour la bande dessinée mais ne marchait pas en fait pour le film, parce qu'il était trop passif, il était trop lunaire, peut-être trop entre guillemets personnage de BD, et pour le film où le spectateur en fait a une exigence un peu plus forte, parce que quand on est spectateur on on n'a pas envie de se poser de questions, on a envie d'être embarqué dans le film, et on peut pas laisser passer d'ambiguïté dans, quand on sait que des gens vont regarder un film pendant une heure et demie, on peut pas se permettre de dire, ah, mais le héros, il va là, mais on sait pas pourquoi. Il faut à chaque fois que chaque action, que chaque décision du héros soit vraiment, délibérée et ait une raison. Et c'est pour ça qu'on a, finalement, mis un autre personnage qui s'appelle Hector, qui a une petite fille, et évidemment tout ça est imbriqué et tout ça a une incidence dans le scénario.
Et du coup, c'est votre père que vous avez ajouté, semble-t-il.
Alors ça, c'est tout à fait. Ça, c'est depuis la BD. En fait, le directeur du parc, alors pas le président qui est le diable, mais le directeur.
Ah, votre père n'est pas le diable. Vous
non,
le
non, ah, pas du tout. Non, le diable, c'est vraiment c'est le président, c'est le PDG, voilà. Et puis il y a le directeur, enfin, on pourrait dire presque le manager, qui est un vampire, qui s'appelle Francis. Et qui est un bon patron parce que lui, en fait, il veut que tous les monstres soient, soient logés à la même enseigne, soient heureux, soient contents, et surtout, c'est lui qui a créé le parc, en fait. Et donc, il a créé ce parc pour que les monstres puissent, eh bien, avoir une vie sociale, côtoyer des humains. Et donc, évidemment, il a pas du tout envie que certains monstres, notamment les vampires et tout, soient plus avantagés que d'autres et tout ça. Et effectivement, dans ce personnage de Francis était présent dans la BD. Et en fait, inconsciemment, je m'en suis aperçu parce que mes frères me l'ont dit, mais je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de mon père, même physiquement. Parce que mon père, en fait, il lui arrivait la même histoire. Voilà. Il était patron d'une petite filiale d'une grosse boîte, et puis il s'est fait virer parce que trop sympa, trop complaisant envers ses employés, et il a été remplacé par un jeune loup sortant d'une grande école, qui pourrait d'ailleurs être représenté par aussi le personnage de Steven, le méchant du film. Donc effectivement, il y a un petit côté autobiographique.
Il a vu le film, votre père ?
Oui, bien sûr. Il a vu. Mais il a lu la BD aussi, et voilà.
Donc, et dernière question, entre le travail d'équipe d'un film et la solitude d'une BD, vous n'étiez pas un peu... Non, qu'est-ce que vous préférez ?
Ah, c'est dur de répondre. Je dirais que non, je préfère quand même le film.
Ah oui.
Ah oui. Alors je dis pas ça parce que je suis à Annecy. Je dis pas l'inverse non plus quand je suis à Angoulême. Mais c'est vrai que ça me faisait peur au début. J'avais peur en fait. J'avais déjà bossé sur des petites équipes, mais alors là, avoir autant de personnes, je me suis dit mais ça se trouve la qualité va être divisée par ce nombre de personnes. Ça va être compliqué. Et puis finalement, j'ai été hyper agréablement surpris. Et au contraire, c'est chaque personne qui bosse sur le film apporte quelque chose et c'était une belle expérience.
Vous restez avec nous, dont on est en direct d'Annecy du Festival de l'Animation. On va retrouver Benjamin Reiner après Gorillaz, She's My Color.
If I could take a-
Benjamin Renner, si Ernest et Célestine, votre première co-réalisation était adaptée de la peintre belge Gabrielle Vincent, celui-là, Le Grand Méchant Renard, est sorti de votre tête, est sorti de votre BD, une scène de théâtre, trois contes à la campagne, avec un renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et un canard qui veut remplacer le Père Noël, bref, plein de clichés renversés où il faut se méfier des apparences. Inspiration aux fables de La Fontaine?
Oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup d'inspiration de La Fontaine et aussi beaucoup de choses personnelles, en fait, de petites anecdotes familiales ou des choses comme ça. Ouais.
On va écouter tout de suite un extrait de ce film où les petits poussins ont été volés par un renard qui se prend pour le loup. Donc, les poussins eux-mêmes croient que ce sont des petits loups.
Vous voyez, maman ?
Non, je vois rien.
Là-bas, regardez, le grand méchant renard.
Gre, gre, gre. Ouh, c'est moi le plus grand et le plus méchant des renards.
Mensonge ! C'est moi le... Oh ! C'est moi, le grand méchant renard.
Maman !
Je vais enfin te donner la correction que tu mérites. Prends ça, maraud, faquin, butor, prends ça, et ça. Tu t'inclines devant ma puissance.
Ton pied.
Oh, pardon.
Maman l'a battu.
Allez, fiche-moi le camp, sale bête.
Enfin, prends ton temps.
C'est vraiment toi, le grand méchant renard ?
Oui, c'est moi.
Mais alors ça veut dire... Ça veut dire qu'on est des renards, nous aussi ?
Hein ?
Vous vous rendez compte ? On est les enfants du grand méchant renard ! On est les créatures les plus fortes et les plus méchantes !
Mais non ! Vous êtes des poussins !
Les poussins ! On les mange ! On les dévore !
Vous êtes des poussins ! Vous devez avoir peur de moi !
Mais non, tu es notre maman. On n'aura jamais peur de toi.
Ça suffit. J'en ai assez. Je ne veux plus vous voir !
On n'a presque pas besoin d'images, Benjamin Renner. Les animaux, ce sont des vecteurs magnifiques pour parler de nous.
Ouais. C'est, en tout cas, moi, c'est toujours avec ça que j'ai fonctionné. Je suis un grand admirateur des fables de La Fontaine, du roman de Renard, les contes du Chat Perché, et même l'anthropomorphisme que faisait Disney et que je regardais beaucoup ses films, même Donald Duck, Tic et Tac, toutes ces choses-là, j'adorais ça et ça me parlait beaucoup, ouais.
Et d'un autre Benjamin Rabier, je trouve on retrouve des traits de Benjamin Rabier.
Ouais, ça c'était les livres que ma mère m'a forcé à lire, mais que j'appréciais quand même.
J'essaie de faire le moins possible pour être le plus expressif possible. C'est votre règle absolue, ça ?
Oui, en fait, c'est un peu lié à ma paresse absolue, c'est-à-dire que j'ai vite compris que j'avais pas un beau dessin, que j'étais pas quelqu'un qui était fait pour devenir un Möbius, quelqu'un qui a vraiment un talent pour le dessin. Et surtout, quand j'étais petite, je voulais être écrivain et j'arrivais pas à écrire des romans parce que c'était très mauvais. Et en fait, je suis passé par le dessin parce que j'arrivais pas à m'exprimer avec les mots. Et finalement, avec un dessin, j'arrivais à dire beaucoup plus que ce que j'aurais pu écrire avec, si je dessinais le renard qui a peur du loup, juste de l'écrire comme ça en texte, c'était pas intéressant, alors qu'en dessin, j'arrivais à exprimer tout ce que je voulais raconter.
C'est quoi le talent d'un dessinateur ? C'est savoir observer et ensuite savoir retranscrire ?
Ouais, en tout cas, je suis assez favorable à cette définition. C'est un peu japonais, c'est-à-dire ce dessinateur japonais qui regarde pendant une journée une carpe et qui ensuite rentre chez lui pour la dessiner. C'est un peu comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire, c'est vraiment observer ce qu'il y a autour de nous, essayer de retranscrire, par le dessin, en retrouvant ce qui est essentiel de ce qu'on a vu et de le retranscrire sur le papier. Ouais.
L'essentiel dans un film comme ça, ce sont les émotions. Et ce qui est absolument dingue avec votre animation, c'est que deux petites billes, les yeux, en fonction de là où ils sont dans le visage, expriment des choses différentes.
Ouais. Bah oui, je confirme. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas.
Mais
c'est,
oui.
Disons qu'il y a vraiment un rapport comme ça. Moi, ce que je dis toujours, c'est que j'arrête de dessiner à partir du moment où on comprend ce qu'il y a. Et c'est que j'ai pas cherché à faire, un poussin réaliste avec toutes ses plumes et tout. Et à partir du moment où on comprend, ça y est. C'est comme une phrase, en fait. C'est-à-dire, si on comprend la phrase, je vais pas rajouter des détails.
Le renard est pas content. Il faut le synthétiser par un dessin.
Exactement. C'est ça. Et puis en plus rajouter justement il est pas content, mais il est pas content de manière drôle ou il est pas content de manière sérieuse. Et tout ça par le dessin, on essaie de le faire passer. Et si on le comprend, c'est que ça a marché. Et je m'arrête là et j'en rajoute pas. Et même d'ailleurs dans la bande dessinée, vous remarquerez que je fais pas de décor. En fait, je fais juste une ligne au sol et ça s'arrête là. Et évidemment, dans le film, on n'a pas pu faire la même chose, mais c'est vraiment mon credo pour le dessin. Ouais.
Laurent Vallière à ma gauche me disait que pour vous reposer d'Ernest et Célestine, vous étiez retourné à la BD et que l'animation est à nouveau venue vous chercher.
Oui. Enfin, c'est mon producteur qui est venu me chercher. En fait, j'avais fini Ernest et Célestine. J'avais besoin de raconter une histoire en moins de 5 ans, parce que Ernest Cécine, ça m'avait pris 5 ans de ma vie pour le faire, et j'ai fait un rapide calcul et je me suis dit que je pourrais pas raconter autant d'histoires que j'aurais voulu raconter, et donc voilà, mon producteur est venu me chercher, il m'a demandé de refaire un film une fois que la bande dessinée était finie, adapter la bande dessinée.
Et une chose qu'on a très bien entendue, c'est l'importance du son. Ouais. Vous étiez au travail d'enregistrement des dialogues en permanent. Enfin, vous avez suivi ça parce que ça fait partie intégrante. On pense à l'animation, on pense à l'image,
ouais.
Mais le son est incroyablement travaillé.
Ouais. Ça c'est un truc. En tout cas, la directrice de plateau qui gérait les acteurs, évidemment, on travaillait avec elle. Elle voulait qu'on soit présent avec elle, et c'était extrêmement agréable parce que en plus c'était beaucoup d'acteurs de théâtre, et du coup j'ai vraiment découvert une nouvelle manière de travailler avec les acteurs, et c'était un vrai bonheur, et même on parle du son, mais même le sound design, donc à savoir les bruitages et
bien
tout
sûr.
Ça, j'ai travaillé avec la même équipe que sur Ernest et Célestine, et c'est des gens qui travaillent, ils veulent faire du son réaliste en fait, c'est-à-dire ils cherchent pas à faire du son cartoon. Si le canard tombe, on va pas entendre un pouet-pouet, quoi, et on va entendre vraiment un canard qui tombe, et j'aime beaucoup cette manière de faire parce que
ils ont mal traité les canards sur le tournage,
on n'a pas pris des vrais canards, hein,
non,
tout s'est bien passé, on a juste pris des poules qu'on tapait comme ça, c'est à peu près pareil. Et non, je plaisante, hein, on a maltraité aucun animal sur le tournage. Et du coup, non, ça me permet vraiment d'incarner le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on a un monde dessiné et tout à coup, il a une texture, en fait. Et ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler le son de manière réaliste, même dans des films qui n'ont pas un graphisme réaliste du tout, quoi.
Ce qui est très drôle aussi, c'est que vous allez contre les clichés liés aux animaux. Ouais. Donc aux humains, eux, ils sont comme ça. Ben non, vous les montrez autrement.
Ouais. C'est parce que j'avais un petit peu vécu dans mon adolescence de justement du cliché de ce que doit être un mec, et voilà, un mec ça doit être viril, ça doit être fort, ça doit regarder les filles et les impressionner, et malheureusement j'ai vite compris que je correspondais à rien de tout ça, et malgré mon intention de correspondre à ces critères, je voyais que ça marchait pas, en fait, quand j'essayais d'aller dans ce sens là ça marchait pas, et donc j'essayais d'être un mec mais je n'y arrivais pas, et exactement comme le renard essaye d'être un renard, il essaye d'être usé, il essaye d'être intelligent mais il n'y arrive pas, et j'ai pris un peu justement les préjugés qu'on a dans les contes, ouais. Mais je les ai pris à l'envers justement pour travailler ça, et les autres animaux sont plutôt fidèle à leur réputation. Le loup est cruel, il est méchant. Mmh. La poule, c'est une maman gentille. Non, elle est elle a de la tonicité.
Ah oui, elle a du répondant.
Voilà. Oui,
ça. Très influencée par ma mère qui est adorable.
Aussi, hein. Maman, si tu m'écoutes. Après le père d'Arthur de Pin, c'est la maman de Benjamin René.
C'est une thérapie, hein, l'animation.
L'affaire de famille.
Voilà, c'est bonjour maman, si tu m'écoutes.
Laurent Vallière, on peut dire qu'on a à côté de nous deux très grands noms de l'animation française.
Ah oui, moi je dirais même que c'est deux tendances, mais oui. Mais effectivement, comme vous disiez au début de l'émission, voilà, c'est vraiment la bande dessinée, c'est une grande influence dans l'animation française. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est deux exemples de personnages qui d'abord ont été dessinateurs de bande dessinée, mm. Même si Arthur de Pins, son premier film d'animation, c'est quelque chose qu'il a fait
sur les crabes.
Tout seul sur son ordinateur, mais voilà, c'était en solitaire comme on fait une bande dessinée.
C'est
deux des fleurons, parce que voilà, ils ont un trait, en fait, ils ont un graphisme. Ce qui est intéressant dans l'animation en France, c'est qu'on est loin des stéréotypes des grands dessins animés en images de synthèse à la Disney, où tous les personnages se rencontrent.
C'est l'extrême diversité.
C'est-à-dire
entre Ma vie de courgette, Benjamin Reiner, Zombie Lilium, tout ça, c'est à chaque fois des univers différents. Et ça distingue énormément de l'animation hollywoodienne, par exemple.
Marc Dupontavis, qui est producteur d'animation depuis très longtemps, de séries, c'est lui qui a produit Oggy et les Cafards et les Zinzins de l'espace, dit ce qui bluffe le plus les Américains et les étrangers lorsqu'ils présentent des séries, c'est le graphisme. Mmh. C'est-à-dire que peut-être qu'en animation, c'est encore autre chose, mais c'est la diversité des graphismes.
Tous les deux, vous avez présenté votre film ici à Annecy. Je le disais en commençant, c'est pas Cannes, c'est un public beaucoup plus expressif. Ça doit être impressionnant, mais en même temps réjouissant
d'être
présenter le film ici.
Ah bah carrément, parce que c'est un aboutissement, parce que c'est notre festival. Donc on est hyper attentif à ce que vont dire les gens, parce que c'est un public à la fois très bienveillant, très survolté parfois aussi, et c'est un plaisir.
Mais c'est
un public
aussi.
Très exigeant,
bien sûr.
Voilà, parce qu'ils voient plein de films d'animation, et quand on rencontre quelqu'un, par exemple, que ce soit un professionnel ou pas, qui a vu nos films, eh ben il va pas juste nous dire c'est bien ou c'est pas bien.
Ouais.
Enfin, il va généralement nous dire c'est bien, c'est normal, mais par contre il va dire c'est bien, mais... le son était comme ci, et nanana, et le compositing était comme ça, etc., etc. Donc, c'est un public très exigeant, mais quand même qui, c'est un bon public. Nous, on est très contents, quoi.
Benjamin, Reiner?
Moi, je me suis évanoui au début de ma séance tellement j'étais ému, donc je me suis rendu compte de rien. C'est je plaisante, mais en fait, disons que j'étais vraiment très angoissé, donc j'étais persuadé que les gens riaient et applaudissaient pour me faire plaisir parce qu'ils étaient polis. Donc
Ou payés.
J'ai un gros soupçon, j'ai un petit côté parano aussi.
Qu'est-ce que c'est que cette leçon d'humilité là?
Non, mais disons que c'est voilà. Ça, en tout cas, ce qui m'a fait vraiment plaisir dans le film, c'est qu'effectivement, il y a un côté théâtre dans le film que je voulais mettre en place. Et ce qui me faisait plaisir, c'est que les spectateurs répondait aux acteurs sur scène, c'est-à-dire que le renard arrive sur scène, il dit bonjour, bonsoir tout le monde, et les gens répondaient bonsoir, et est-ce que vous avez aimé le spectacle? Ils étaient tous là, oui, oui, comme ça, donc ça me faisait beaucoup rire, et j'étais content de voir que ça, il y avait l'interactivité qui se crée, et qui se crée pas forcément dans toutes les salles.
Le Grand Méchant Renard sort le 21 juin, et Zombilennium le 18 octobre, c'est bien ça?
C'est ça.
Cinéma d'animation, La French Touch aux éditions de La Martinière, 125 années d'une histoire de l'animation, superbement illustrée. La French Touch n'existe pas, écrit Michel Oslo. Alors, si elle n'existe pas, comment la définir?
Ah bah, c'est très compliqué. Alors moi, je dirais que c'est un creuset. En fait, j'ai l'impression que en France, on a l'avantage incroyable d'être né dans une culture de la bande dessinée. C'est-à-dire que c'est une culture que beaucoup nous envient. Aux États-Unis, on sait très bien qu'il y a tous ces super-héros. Au Japon, il y a des mangas, mais ils ont tous des graphismes un petit peu facilement reconnaissables. Mmh. Les grands yeux pour les mangas, et puis les super-héros, on sait à quoi ils ressemblent. Et en France, il y a eu toute cette vague de la bande dessinée, la ligne claire avec Tintin, Druet avec la science-fiction, ou des choses plus humoristiques dans le sens de ce que fait Benjamin Reiner avec des traits très simples. Et en fait, on a un graphisme, une variété de graphismes très étonnante et qui est le premier filon, j'allais dire, de l'animation. Et après, on a aussi une façon. J'en parlais un peu et je me demande si c'est pas finalement ça l'explication. Ce sont presque tous à chaque fois des films d'auteur, les films d'animation. Vous regardez, c'est le père de Arthur de Pince qui est dans son film. Non, c'est un exemple, mais j'ai l'impression que en France, les auteurs ont le droit d'aller au bout de leurs histoires.
C'est un peu comme la nouvelle vague en cinéma normal.
Oui, c'est un peu le fait que en France, on a les réalisateurs ont la final cut finalement. Oui. C'est-à-dire que les producteurs aux États-Unis, ils passent leur temps à revisiter le scénario d'un Pixar ou d'un DreamWorks, et puis même si le scénario leur va pas, hop, ils virent le scénariste et ils en prennent un autre. Et là, non, vous avez des auteurs, vous en avez vraiment deux autour de la table, qui y en a un qui fait faire la grève à ses zombies ouvriers, il y en a un autre qui crée des contes comme ça dans une basse-cour et sont des contes qui ont il y a toujours un second degré en fait et qui n'est pas toujours à rond. Évidemment, chez Pixar, il y a ce second degré là, mais c'est pas toujours le cas.
Votre livre donc est chapitré comme tel, Les Pionniers, donc Paul Grimaud, une école française, la nouvelle vague, l'émancipation, et dans cette nouvelle vague émancipation, on a choisi les Shadok.
Les Shadok d'en bas, eux aussi, ont décidé d'aller sur la Terre pour être tranquilles. Jusqu'ici, vous direz-vous, nous avons laissé ces Shadok-là faire un peu ce qu'ils voulaient, sans trop nous en occuper, et nous prions nos téléspectateurs de nous en excuser. Mais il se passait déjà tellement de choses en haut que nous n'avons pas eu le temps de voir ce qui se passait en bas. Eh bien, il s'y passait à peu près la même chose. Et si vous vouliez le savoir en détail, il nous suffirait de recommencer notre histoire à partir du début et de vous remontrer tout comme ça. Mais quand même. Pour résumer simplement les choses, disons que, d'une part, leur haut à eux était plus bas que le bas de ceux d'en haut. Et que, d'autre part, leur bas était excessivement au-dessus de leur haut. De sorte que, quand un Shadok d'en bas voulait tomber d'assez haut, par exemple, il fallait qu'il saute de bien plus bas que si le haut avait été nettement au-dessous, c'est-à-dire, en réalité, au-dessus du bas. Ou quelque chose comme ça.
« Vous vous rendez compte que c'était un programme pour la télé en 1968 sous De Gaulle et Fernand Reynaud. C'était révolutionnaire.
C'est l'exemple même du prototype, hein. Je peux même vous dire. Ça a été créé par le service de la recherche qui était dirigé par Pierre Schaeffer de la radio-télévision française. Et il avait quand même programmé ça à 20h30. On était à 2 mois de mai 68. Et d'ailleurs, ça s'est arrêté à mai 68. C'était vraiment révolutionnaire. En plus, rien que le graphisme était révolutionnaire. Parce que Benjamin disait à l'instant que lui, il aime pas peaufiner trop un personnage une fois qu'on comprend l'expression d'un renard, il s'arrête là. Bah, les Shadowcats, c'est ça. Et en plus, il s'inspirait vraiment de graphistes américains, Paul Steinberg, ou encore même de peintres comme Miro, dans l'esthétique. Ouais.
Et on parlait de la voix, et la voix, c'est celle de Claude Pieplu, immense comédien, à la voix immédiatement reconnaissable.
Avec cette parodie de faux...
Ah, Claude Pieplu qui est applaudi ici, merci.
Voilà, merci.
Avec ce texte de faux conférencier, effectivement.
Ouais.
Alors, il y a plein d'étapes que vous décrivez, bien sûr, dans ce gros livre. Quel travail, d'ailleurs. Il y a une autre date très importante, c'est la révolution Kirikou, sortie sur les écrans en 98, presque en catimini. Vous l'écrivez, pas d'affiche, pas de bande-annonce. Face à ce Kirikou, je crois qu'il y avait Disney.
Il y avait Mulan de Disney, il y avait le premier film de chez DreamWorks qui était Le Prince d'Égypte. Super production.
Ouais. Comment on peut expliquer? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a innové? Qu'est-ce qui est arrivé?
Ah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vrai bouche à oreille. Alors, ça, c'est rare, quand même. Il y a eu un vrai bouche à oreille, tout d'un coup, face à... Mulan n'était pas un mauvais film, d'ailleurs Le Prince d'Égypte n'est pas un mauvais film, mais je pense que c'est l'exemple type du long métrage dont le scénario est juste parfait. C'est un conte, c'est pour les enfants. Comme dit Michel Oslo, c'est un film qui respecte énormément les enfants. C'est-à-dire que lui, il s'est battu pendant toute la production du film pour qu'on rajoute pas des soutiens-gorge aux femmes. Il voulait vraiment que les enfants voient la réalité de ce qu'il avait vécu quand il était jeune en Afrique. Et c'est un conte aussi qui est complètement à l'inverse de toutes les productions hollywoodiennes, parce que par exemple pendant la production, les chaînes de télé qui mettaient de l'argent disaient mais on veut un côté un peu plus cartoon, on veut quelque chose de plus élastique, on veut du Walt Disney. Et lui disait non, moi je veux quelque chose de naturaliste. Et quand il bouge, je veux que ça soit voilà, d'une façon très simple, sans exagérer toutes les expressions. Alors après, comment s'est fait ce succès? Moi, comment peut-on arriver à un succès, 1 million de spectateurs, sans avoir une seule bande-annonce? Ça reste inexpliqué pour moi, à part le fait qu'il y a eu un très beau travail peut-être du distributeur Marc Bonny GBK, qui je crois a été voir un par un toutes les salles de cinéma et qui a eu voilà ce bouche à oreille qui s'est créé.
Est-ce que Oslo est un exemple pour vous deux, Arthur Depince, Benjamin Reyner?
Eh bien oui, justement, Laurent parlait de l'exemple des soutiens-gorge. En fait, ça peut prêter à sourire, mais il n'empêche que c'est une preuve de courage, parce que c'est vrai qu'en gros, c'est un cas qui arrive assez souvent, que ce soit d'ailleurs dans le cinéma, le dessin animé, enfin ou d'autres domaines artistiques. C'est-à-dire voilà, il y a si tu fais pas ça, le film on pourra pas le vendre aux États-Unis, et ou alors on va nous couper 4 millions sur le budget. Donc voilà, on se retrouve face à un espèce de choix à faire, et je trouve ça c'est vraiment un très très bon exemple de courage, parce que il a tenu bon. Et alors le film du coup n'est peut-être pas sorti aux États-Unis, mais n'empêche que le film il est ce qu'il est.
Il est sorti aux États-Unis, mais alors ça c'est toujours très compliqué. Il est sorti, il a été acheté par un distributeur qui était spécialisé, c'est les États-Unis, hein, dans les films destinés à la communauté afro-américaine.
Ah d'accord.
Donc c'est pas du tout dans le grand public.
D'accord, ouais. Mais du coup voilà, il a quand même fait le film qu'il voulait, et c'est très bien.
Donc ce livre, pardon, hein, on peut pas développer tellement cet énorme cinéma d'animation, la French Touch. Laurent Vallière, préface, Sébastien Lodenbach, Michel Oslo, justement, édition de la Martinière et Arte Édition, et vous allez animer aussi...
Il y a une séance à la Cinémathèque lundi soir, où on va justement présenter plusieurs courts-métrages qui sont les jalons de la French Touch de l'animation.
Merci, c'est déjà fini, d'Annecy, merci à tous d'être
venus.
Merci
Annecy, merci.
Merci aux équipes techniques, et notamment à Gilles Manet, Mathieu Leroy, Laurent César, Adrien Gaza. Un salut très amical à Julien Dupuis. Toutes les infos sur notre site, Laurent.
Franceinter.fr, évidemment.
La semaine prochaine, retour à Paris pour la dernière de la saison et l'occasion de fêter nos 10 ans. Et oui, ça fait 10 ans déjà, avec Pierre Salvadori, Bona Poulvorde, Laurent Cantet, Céline Sciamma, Alex Baupin et Vimala Ponce. Merci beaucoup, et messieurs génériques, je vous fais signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Martine Messoni s'est occupée de la préparation.
C'est une émission réalisée par Anne-Sophie Ladonne.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi, Arthur Depince, j'y étais.
Et moi, Benjamin Reiner, j'y étais.
Et moi, Laurent Vallière, j'y étais.